chercher du vin. Je vais nous chercher du vin. Je vais nous chercher du vin pour venir jusqu'au matin, jusqu'à la Saint-Glinglin. Cette pique était infecte. Cette pique était infecte. Cette pique était infecte. Les mecs la meute et les se sont des ultra abjects.
C'est l'oreille cassée, l'émission Super Rock des 3-8 de la Grenouille. Nous sommes tous ensemble jusqu'à 20h. Un générique un peu particulier ce soir, c'était aussi, ce que vous entendez en tapis, c'est Tony Truant et ses deux solutions. Un disque qu'il a enregistré en 2010 en Bourgogne, dans un studio qui s'appelait le Kaiser Studio, si je me trompe. Et donc, dans ses paroles là, il dit on va se chercher du vin, etc. Et on va aller chez le Kaiser. Et donc, parce que ce soir, on va faire un hommage à travers le Kaiser, à travers Lucas Trouble, qui était un grand producteur et puis qui a mené une expérience unique, moi je pense, en France et on pourrait dire en Europe, de mener à la fois être producteur de disques et également un label qui s'appelait Nova Express. Donc il y avait une sorte de laboratoire où il a enregistré des centaines et centaines de productions comme ça pendant une dizaine d'années, plus de 10 ans, hein, Michel, si je me trompe.
Il a commencé au studio dans les années 80 et le label il a dû le commencer dans les années 90.
Les années 90. Donc c'est l'occasion ce soir de revenir un petit peu cet acteur majeur du rock hexagonal. Alors on est avec nous Vince et Thierry Denitz. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Et on a aussi Michel des Cowboys. Vous avez la particularité d'avoir bien connu le Kaiser pour avoir enregistré pratiquement toute votre discographie, hein, parce que là on a affaire quand même à des monuments du rock français ici ce soir. Et donc pratiquement tous vos disques, vous avez enregistré là-bas
Pour les Needs, l'intégralité de ce qui est sorti en disque, c'est-à-dire les 6 albums et les compiles et tout, ont été toujours enregistrés au Kaiser Studio. Moi, je n'ai jamais foutu les pieds dans un autre studio que celui-là.
Bah, on reparlera de cette histoire, de fidélité. Toi, Michel, c'est pareil, c'est la même chose.
Ouais. Tout à fait. Et pourquoi aller ailleurs?
Pourtant, tu as eu, eu l'occasion peut-être d'aller aux États-Unis.
J'ai enregistré dans d'autres studios avec d'autres gens, mais avec les Cowboys, il n'était pas question d'aller ailleurs. Voilà.
Donc un personnage qui au fil des témoignages aussi est un personnage attachant, super sympa, etc. Alors qu'au début c'était tout le monde dit il est un peu brut de décoffrage, et puis après c'est quelqu'un d'adorable, et chaque fois les témoignages des gens que l'on connu, Pascal, on peut parler aussi Pascal des Gazolettes, etc. Également Polo, puisque j'étais là avec lui cet après-midi, c'est un gars qui avait le cœur en or, quoi.
C'était comme on dit à Marseille, c'était un fada, c'était un genre de boucan aussi, mais en fait c'était quelqu'un de très attachant, mais au bout, mais il était tellement, il était très, mais il, pas pour tout le monde, hein. Bien se trouver, il s'est bien trouvé. Il avait un faible avec les gens du sud, hein, puisque voilà, moi je pense qu'il avait un faible avec les gens du sud. Moi j'ai pas entendu les mêmes choses de partout, quoi. Voilà, mais bon, avec nous, il se trouve qu'on est tous d'accord.
Une petite anecdote justement sur les gens du sud et le premier abord, quand on est arrivé pour enregistrer notre premier album là-bas. Donc on arrive et dans son ancien studio, le premier des deux qu'il a eu, il y avait un gros tas de sable qui nous empêchait de mettre la voiture. Et il nous dit, les gars, vous êtes venus, c'est bien. Bon, vous allez commencer par me virer le tas de sable, là. Puis vous, les gars du sud, vous avez ça dans le sang.
Voilà. Beaucoup d'humour aussi. Ouais. Voilà, donc Jean-Michel aussi et Eric qui sont venus nous accompagner pour cette émission. Alors là, on a bien écouté Tony Truant qui a enregistré aussi avec au Kaiser Studio. Mais on va passer maintenant un petit peu à l'actualité musicale, puisqu'il y a un concert sympathique, sympatoche, on va dire, qui est mardi. C'est mardi.
Lundi.
Donc c'est Power Solo, des frères danois qui passent au Molotov. Donc lundi 8 mai. Concert, on va ne pas rater. Ils sont beaux sur scène. Moi, je les ai déjà vus sur scène. C'est vraiment, c'est l'éclate. Toi aussi, Michel, tu les as déjà vus.
Ouais,
qu'est-ce qui s'est passé au Poste à Galène?
Oui, au Poste à Galène, ils sont passés une fois.
Ouais.
Ouais,
c'est au Postagan, je les ai vus. Ouais, c'était pour la sortie du deuxième album qui était chez Lollipop.
Voilà. Donc c'est un groupe complètement frappadingue, comme on dit ici à Marseille, de Fada. Alors, le répertoire est assez large. Ils puisent dans le rockabilly, dans le rock garage, le blues, la country, même aussi le rock 60s français un peu yéyé. Bon, voilà, c'est toujours pris avec beaucoup d'humour, mais toujours avec de la justesse parce que les morceaux sont excellents. Il y a toujours un souci de la mélodie, de sonner juste, de sonner bien, quoi. Voilà, Power Solo, on les écoute. Pour son énergie. Donc c'est lundi, ils sont donc au Molotov et c'est l'extrait de leur dernier opus qui s'appelle The Real Sound.
Ah, voilà. Real.
Ouais, c'est ça. C'est dit comme ça. C'est dit comme ça. Allez, Power Solo, c'est parti. Power Solo, tu vois, je pensais à autre chose. Power Solo, donc lundi donc au Molotov, également dimanche soir.
Alors
ce soir
de Paul Collins en solo. Au Jam.
Un concert participatif, c'est-à-dire que c'est le nombre de spectateurs qui va payer. Alors Paul Collins c'est une légende aussi de la power pop US qui sera cette fois-ci en solo au Jam donc dimanche soir. Ouais. Voilà, un concert organisé par Christian Manzoni qu'on salue.
Ouais.
Voilà, donc on continue avec une nouveauté que tu as amené Eric.
Ouais, c'est un groupe de Cardiff, enfin c'est un one-man band de Cardiff, c'est le side project du groupe qui s'appelle Future of the Left. C'est un groupe qui existe depuis maintenant quelques années et donc la tête pensante du groupe s'appelle Andrew Falkus et il a réalisé déjà un paquet d'albums et il réalise ce projet en solo qui s'appelle Christian Fitness et qui fait pas mal de bruit, qui a du mal à trouver beaucoup d'échos parce qu'il n'est pas relayé, il n'est pas sorti sur un label particulier, hein. Il sort ses productions sur Bandcamp et quand il a suffisamment d'argent, il sort finalement une version en CD. Donc pour l'instant, le disque est disponible sur Bandcamp et voilà, je voulais que vous écoutiez ça parce que ça a vraiment la patate et il faut les soutenir financièrement et faire connaître le groupe parce que je pense que c'est un groupe essentiel de la scène britannique en ce moment, de la scène punk noise en Grande-Bretagne. Voilà, c'est un disque qui a été enregistré au Music Box à Cardiff, qui sort sur Prescription Music, qui devrait sortir sur Prescription Music
encore,
en CD, parce que pour l'instant, il est uniquement disponible sur Bandcamp. Voilà, mais le Future of the Left, ça va plutôt bien. Donc il fait ce groupe-là avec sa femme, et le Christian Fitness, c'est son projet solo. Et on va écouter un morceau qui s'appelle Slap Bass Hunks, qui est aussi le titre de l'album, et ça vient de sortir au mois d'avril 2017.
With the fair weather mates, they're totally dry, they're totally dry, they're totally dry in the sight of their god. It bangs, cracks, stamps on their backs, and that's just the part that they pay for. In fact, it's good for that woman, but bad for her friends. I patronize her, but she's too fucking clever. It ebbs, flows, moves through your bones. Self-based hunks in the heart of the kingdom. They're closing the border, they're shutting their legs. They made all that money, so fuck you, so fuck you. It ebbs, flows, bones. Sad-faced hunks in the heart of the kingdom. They're closing the border, they're shutting their lips. They made all that money, so fuck you, so fuck you.
Oui,
yes. Alors, on le rappelle le nom du groupe.
Voilà, Christian Fitness, ça vient de sortir. C'est disponible sur Bandcamp et c'est un groupe gallois, donc de Cardiff, et c'est sorti en avril. Donc allez écouter ça.
Voilà, pour que la sortie physique aussi puisse se faire. Voilà, exactement, puisque c'est sur Bandcamp qui se finance. Alors on parle de campagne de soutien, puisque en ce moment il y a la campagne de soutien à Radio Grenouille, hein, qui est du 20 avril au 20 mai. On est à mi-chemin. On attend beaucoup de dons des auditeurs, et puis pas que des auditeurs, aussi des Radio Grenouille, mais tous ceux qui se sentent concernés par ce projet qui date depuis 1980, hein, donc on est Radio Libre, et puis qui a été soutenu, il y a plusieurs générations de Marseillais qui sont passées par là, et c'est un espace, moi je personnellement, parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'intervenir là-dessus, c'est Radio Grenouille, c'est un espace de liberté, hein, l'espace de liberté, et qui permet toujours d'avoir une émission comme la nôtre. Nous on y vient sans prétention, on est simplement habité par la passion, hein, c'était la démarche du fanzine, le fanzine papier qui est devenu le fanzine radiophonique, hein, pour soutenir des groupes comme ça qu'on n'écoutait pas ailleurs, et puis on continue comme ça l'aventure, parce que c'est plus de 10 ans que l'émission existe, et voilà, donc on est là, toujours aussi passionné par ça, et grâce à Radio Grenouille on peut le faire, et je pense qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'espace et de lieux où on peut diffuser des groupes comme les Nits, des groupes comme les Cowboys, les productions de Lucas Trouble, ou toutes les productions de rock indépendant. Alors bien sûr, il y a quelques radios nationales et qui ont des émissions un petit peu branchées sur le rock. Il y a beaucoup de radios associatives encore par ailleurs, heureusement, notamment Radio Galère aussi à Marseille. Il y a Radio Zenzine du côté de Aix, mais Radio Grenouille, c'est vraiment un espace vraiment de liberté totale et qu'il faut soutenir. Alors allez sur le site de Radio Grenouille, vous avez la page Soutenez Radio Grenouille, vous voyez un petit peu à toutes les modalités. Faites un don, vous pouvez aller de 1 euro jusqu'à 10 000 euros si vous voulez.
Ouais, hein, ouais.
Voilà. Bon, il y a certains qui ont.
Voilà, vous pouvez. Hein,
voilà, tout ce que vous pouvez, même c'est 4 centimes d'euros.
On va en donner à nous aussi.
Allez, c'est du skip des impôts, comme tu disais, Jean-Michel.
C'est du skip des impôts aussi, hein, donc profitez.
Voilà, on est réunis autour de cette page parce qu'il fallait en parler et c'est important. Donc ce soir, on revient un petit peu dans Schmlibic, l'hommage à Lucas Trouble. Alors tu disais Lucas Trouble tout à l'heure. Lucas Trouble, Trouble, comment tu le prononces toi,
Lucas
Michel
Trouble. Lucas Trouble.
Ouais, voilà, oui, c'est le côté
américain. En fait, si tu veux, ce qui est très drôle, c'est-à-dire que nous, quand on l'a connu, mais on l'a connu par l'intermédiaire de ses disques et par
pendant, si tu veux, un an et demi, on était persuadé que les Vietnam Vétérans, c'était un groupe américain.
Ouais.
Et si tu veux, quand on a découvert qu'il était à Chalon, il y a eu à la fois, si tu veux, bon, après quand tu connais le personnage, évidemment, ça te fait rire, mais ça a été à la fois une désillusion et une magnifique rencontre, puisqu'on a pu rencontrer, si tu veux, une de nos idoles. Moi, quand j'étais post-ado, quand j'avais une vingtaine d'années, j'écoutais les Vietnam Vétérans.
Il faut savoir, tomber dessus, là-dessus.
Et quand on l'a rencontré par l'entremise de notre mort fameux qui est Henri Gobi, ça a été une super aventure. Et ça a été une très très belle histoire.
Une belle rencontre d'amitié, hein, qui est devenue une belle rencontre d'amitié. Alors, vous avez, vous êtes venu aussi avec quelque chose de nouveau. Hein, voilà, ce soir, un peu une exclusivité mondiale.
De nouveau, alors de nouveau, pas tant que ça, puisque notre sixième album devrait sortir. Sixième est vraisemblablement dernier, mais c'est le dernier depuis le troisième, mais quoi qu'il en soit, on a commencé à l'enregistrer en 2012. Donc, et on bute depuis, en 2012-2013, parce qu'on est toujours, on enregistre, on refait des prises, on remixe, donc c'est toujours du boulot. Puis ça nous donnait aussi un prétexte d'aller boire du vin en Bourgogne, et de dormir dans des gîtes qui ressemblent plus à des frigos et des entrepôts pour marcasser à moitié dépecés. Mais quoi qu'il en soit, donc on a pris du temps, mais là, depuis maintenant 2 ans et demi, on bute sur un problème de pochette. Donc je le dis, qui devrait être résolu, puisqu'on a fait appel au graphiste de Lucas Strobol, qui lui aussi a quelques problèmes de délai. Et comme je disais, comment faire confiance à quelqu'un qui vote Macron au premier tour? Au premier tour, j'ai bien le reste.
Tu as dit que c'est la radio de la liberté.
Tu n'auras jamais ta prochaine.
S'il y a des graphistes parmi vous, encore 2 verres de blanc, je pense qu'il faut qu'ils sortent absolument du...
Voilà, tu dis pas son nom, tu peux dire ce qu'il veut.
Donc, ce dernier album, qui a pas de. J'ai pas le nom, hein, c'est le dernier, vous l'avez enregistré donc, chez Lucas Troubert.
Bellera, The Most Elegant Hanged Man. Voilà, les élégants, les pendus les plus élégants du monde.
Et pour la petite histoire, il sort sur le label Nova Express qui avait été créé par Lucas Troubert au fin des années 80, hein, à peu près. J'ai pas les dates exactement.
Nova Express,
84, Nova Express. Le studio, enfin le deuxième studio, je pense qu'il y en a eu deux dans l'histoire, en 1989. Studio, hein, et puis les Vietnam Vétérans, c'est sur, été fondé en 1982. Ouais, tu dois être jeune, Thierry, à cette époque-là.
T'attends de ça, finalement, je vais pas tarder. J'ai eu mon bac, j'ai 21 ans.
Bon, on écoute Lénitz, ça fait plaisir de la réécouter ici, dans Radio Grenouille.
Et Lucas joue du clavier, évidemment.
Il joue du clavier dessus. Alors, le morceau que vous avez choisi, c'est. Alors,
la note.
Problème, c'est que les claviers qu'on entend en général dans les groupes qu'il a enregistrés, c'était lui.
C'était lui.
J'ai vu deux claviers, enregistré à part son frère un autre clavier.
Ouais, moi, j'en ai vu deux et les deux ont vécu des moments absolument terribles.
Notamment Mackie, si tu veux. Tu connais. Ouais.
Allez, My Sweet Love, Denitz, c'est parti.
So lonely, them
Yes, oui, les Leeds dans l'oreille cassée, donc extrait de leur futur nouvel album, hein, une reprise de
Liazelwood.
Liazelwood.
Tu vas me dire pourquoi.
Parce que ta voix va bien dessus, quoi.
Ouais, c'est la sienne qui va bien.
Voilà, nous sommes avec Thierry, Vince, Denitz et Michel des Cowboys, qui ont très bien connu donc Lucas Trouble, Lucas Trouble, alias le Kaiser. Alors le Kaiser, c'était le nom du studio qui est devenu aussi son pseudo.
Le Kaiser, c'est parce qu'un mec, un jour, il était tellement dur en production et qu'il faisait chier tout le monde, un mec, il a dit, putain, mais il a voulu dire, mais tu es une espèce de Führer. Mais il n'a pas trouvé le mot, alors il a dit, mais tu es une espèce de Kaiser. Et donc, c'est devenu le nom du studio, le Kaiser Studio. Voilà.
Le Kaiser Studio, donc voilà. Donc par rapport à ses pratiques d'enregistrement.
Ah, c'est pratique brutale.
Brutale d'enregistrement.
Il aurait s'il avait appelé le Führer Studio, ça aurait été excellent.
Je pense que le Führer Studio, je n'aurais pas pu trop l'appeler quand même.
Et à l'entrée de la salle de prise, il y avait une grande pancarte avec marqué dessus « Ni Dieu ni maître, sauf pour le rock'n'roll ».
Voilà, donc dans ce studio de Bourgogne, près de Chalon, où tu disais tout à l'heure, Thierry, il a produit par centaines des groupes, je ne sais pas, les productions, Michel, on était là.
Alors moi, je peux dire déjà les groupes de Marseille. Alors les groupes de Marseille, il y a Dirties, Devilish Piranhas, Ich Bin Dead, la Funky Family ou je sais pas quoi, la Mambo. Il y a Holy Curse, ils sont depuis qu'il y a Polo à Marseille. Voilà.
Ouais,
après, bon, ben, il y a les Nils, les Cowboys from Outer Space. Hein. Entre autres, nous, quand même, le truc, c'est quand on est arrivé avec les Cowboys, ils venaient juste de produire Dionysos,
le
premier album de Dionysos. Ouais. Et franchement, c'est lui qui l'a. Bon, moi, je connais, les gens qui le connaissent bien connaissent un peu comment ça s'est passé. Et c'est vrai que c'est lui qui leur a trouvé ce son incroyable sur le premier morceau qui s'appelait Wet de Dionysos. Et donc c'est là, sur cet album, on peut s'apercevoir que c'est un véritable producteur. De toute façon, c'était un véritable producteur, c'était un genre de Steve Albini, mais français. Voilà, avec un super
Alors,
studio et tout.
C'est le Dionysos qui est sorti sur Pandemonium ou c'est
non,
celui
non,
d'après
Non, ce Dionysos-là est sorti sur Nova Express.
C'est l'album d'après.
Nova Express.
Avec une pochette bleue, je me rappelle.
Il s'appelle.
Parce que je crois que le premier Dionysos, c'est un split qui est sorti sur Pandemonium.
Ah, peut-être.
Voilà.
Après, je suppose qu'il vouait une haine monumentale contre.
Ouais, Happening Songs. Voilà, l'album s'appelle Happening Songs, le premier album de Dionysos qui les a mis sur les rails. Et après, ça s'est très mal passé entre eux et lui.
Alors, c'est pas comme tu disais tout à l'heure, c'est pas toujours bien passé avec tous les groupes qui sont passés là-bas. Il y a toujours des rapports un peu.
Par rapport à Dionysos, il est détesté tellement que. Apparemment, les droits de cet album-là ont été rachetés par la maison de disques qu'ils ont eu par la suite, je sais pas laquelle. Et lui, en douce, il faisait presser des albums de Dionysos par 500 pour les revendre un peu sous le manteau. Juste pour un peu apprendre ce que c'était la vie. Et il l'a bien fait.
Alors tu disais c'est un producteur, c'était donc parce qu'il y a deux, l'ingénieur du son et le producteur, c'est celui qui va apporter quelque chose plus que l'enregistrement. Alors qu'est-ce qu'il
pouvait s'arrêter selon le groupe qu'il y avait, il pouvait s'arrêter au travail d'ingénieur du son.
Ouais.
Et après, selon le groupe qu'il y avait, s'il trouvait qu'il y avait quelque chose et que ça lui plaisait et qu'il avait envie de se mettre dedans, il devenait producteur. Donc producteur, il était. Moi, je me rappelle pour le troisième album des Cowboys, on avait fait deux albums avec lui. Le troisième, il m'avait poussé à le faire alors que j'étais pas trop chaud à le faire. Donc c'est le premier album, il est arrivé, on n'avait pas tout et je travaillais beaucoup avec lui et il m'a poussé vraiment au bout.
Au maximum,
en me disant que le troisième, et il me disait toujours le troisième, c'est celui-là qui compte, c'est celui-là qu'il faut. Et le troisième album, on a été disque du mois, entre autres, chez
Rock'n'Folk,
qui est l'album le plus vendu de Nova Express. Du coup, mais il poussait vraiment les gens, il faisait tout sortir, je veux dire.
Sortir les tripes, quoi. Voilà, au maximum.
Ouais. Et on n'était pas là, moi j'étais pas là pour les autres groupes, mais quand j'entendais les histoires, je me disais, putain. Fou,
il arrivait à te faire des prises. Nous, il y a eu des prises sur le deuxième album, du style aux alentours de 2h du matin où tu es ivre-mort et où tu penses que tu sortiras rien. Tu es donc dans ta cabine au champ et il avait une appétence particulière où, il m'a permis de travailler ma voix. De manière, moi je trouve magistrale, quoi. Quand je m'écoute, je me dis c'est pas moi, tu vois, c'est quelqu'un d'autre. Quoi. Donc, il était très, 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 très bon. Et à 2h du mat, il fait une prise et finalement, toi, tu, t'en souviens pas toi le lendemain, et c'est finalement c'est celle-là qui va garder.
Alors tu disais qu'il y a une relation avec l'alcool aussi, qui était parce qu'il était un grand amateur de vin de Bourgogne, puisqu'il était.
Une relation avec l'alcool.
Il y avait le cadre.
Oui, il y avait. Il y avait toujours des verres, des bouteilles de vin blanc, mais il y en a ici aussi. Alors,
tu vois, il y a le pastis aussi.
Le pastis. Parce que pour les Marseillais, il aimait bien son côté. Je pense qu'avec nous, il pensait qu'il était presque Marseillais. Voilà.
Ouais. Mais après, c'est-à-dire que vers 11h, il te regardait comme ça, il se tapait un peu les cuisses. Un peu les couilles, et puis il se jetait en arrière, il faisait bon, alors tu vois, le pastis. C'était, en fait, il adorait, alors qu'on lui serve du pastis, qui est généralement tiède, parce qu'il n'y avait jamais de glaçons, c'est très compliqué, et qu'on lui fasse de la bouffe. Et donc, on lui a fait, si tu veux, pendant des années, on lui a fait des. Enfin, surtout Vincent, un peu moins que moi, mais si tu vois, on lui a fait de la daube de poule,
des petits plats,
qu'il a gardé dans le congélateur. Tu revenais pour enregistrer, pour mixer, il se fait, tu sais, j'ai toujours le truc au congélateur.
Tu vois, il avait une attirance particulière pour l'Aioli.
Ouais, l'Aioli. Alors, une fois, pour le premier album, je rate l'Aioli. Tu peux pas t'imaginer à quel point j'ai été insulté. En plus, il n'y avait plus d'eux, on était au bout du monde. Et il m'a traité plus bas, tu vois, comme un chien, comme une merde. Parce que j'avais raté l'Aioli.
Ouais, j'ai vu Polo des Wickers cet après-midi. Il m'a raconté que la première fois qu'il a rencontré le Kaiser, ils sont allés, comme tu disais, au bout du monde, une piste. Là, ils se croyaient que c'était. Et à l'époque, ils n'avaient pas le GPS, donc ils sont arrivés à 3h du matin. Un gars qui les attend sous leur porte. Avec un grand chapeau, ils sont bien se recréer dans un film de vampires.
Il avait un genre de manoir.
Et la première chose qu'il leur a fait visiter, c'est la cave à vin. Quoi. Donc voilà, c'était donc après
bon, ça c'était. Pour en revenir sur son visionnaire, c'est vrai qu'il pouvait t'appeler à 2h du mat. Moi, il m'a fait réveiller par le batteur à 2h du mat pour venir chanter une chanson aussi. Et après, il pouvait venir me réveiller à 8h. On partait, on baladait au bord du canal. Il faisait super froid, on parlait, il me disait, ben là je sens que tu es bien en voix, on va faire ça là, c'est-à-dire qu'en fait on avait enregistré la chanson sans les paroles, on a enregistré comme ça en live et sans le chant, mais lui déjà il captait la chanson, et le lendemain il me dit, t'es prêt à 8h du matin, tu as la voix du réveil, t'es prêt pour cette chanson, il savait même pas ce que j'allais chanter, mais il me dit, t'es prêt pour cette chanson, et donc c'est Rock'n'Roll Star sur le troisième album. Et je l'ai faite à 8h30 du matin, j'ai pas pris de café, venais juste de me lever, il m'avait traîné sur le. Promener son chien, Stan. Et il m'avait dit, voilà, maintenant on va enregistrer. Donc voilà, c'était quelqu'un de très visionnaire.
Alors, si on l'écoutait, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il a produit des centaines de groupes, mais il se produisait aussi lui-même. Hein.
Le premier morceau, c'est son premier single. Où il s'est produit, je crois que c'est de 1980, c'est Miss Syphilis. Donc c'est, bien entendu, c'est des thèmes qui lui tenaient à cœur et qui lui ont tenu à cœur jusqu'à la fin, tous ces thèmes un peu pas morbides, puisque Miss Syphilis, elle est élevée sur la face, voilà, sur la face,
une face cachée, la face du sexe, on va dire.
Après, plus tard, c'est Yael Vérolo, voilà, donc... effectivement. Donc, Miss Syphilis, et puis c'est des thèmes, il était très, très noir, il était assez gothique, cryptique, donc il aimait bien ces thèmes, tout ça, autour de la maladie, autour de la mort. Voilà, donc c'est Miss Syphilis qui présente bien le personnage tel qu'il pouvait être en 80.
On le trouve sur une. Je ne sais pas si on le retrouve encore, ces disques qui sont rares maintenant.
Oui, oui, oui.
C'est une compilation où il est une sorte de best-of.
The Most Beautiful Song of Lucas Trouble, dont il s'est inspiré de The Most Beautiful Song of Frank Sinatra.
D'accord.
Donc c'est la même pochette, sauf qu'à la place de la tronche de Frank Sinatra, il y a la tronche de Bela Lugosi qui joue de l'orgue dans le Phantom du Paradis.
Ouais, c'est très mauvais genre tout ça. Oui. Allez, c'est parti, moi je l'adore. Allez. Thank you. Dans l'oreille cassée avec Miss Syphilis. Premier 45 tours. Hein, premier 45 tours.
Le premier 45 tours de Lucas.
Il n'y avait pas encore le label à l'époque. Hein, il n'y avait pas encore le label.
Non, il n'y avait pas de label. Il avait autoproduit et il avait été à fond. Voilà, c'était Lucas. Il était déjà intéressé par tout ça. Il avait enregistré. Voilà.
Et c'était l'aventure des Vietnam Veterans, ça avait commencé aussi
Non, l'aventure des Vietnam Veterans, c'est après. C'était dans les années 80, 83, 84, je pense. Avant, il y a Tango Luger.
Ah, Tango Luger.
Alors Tango Luger, bon, je ne sais pas si le tango ça a tenu à cœur, il m'en a jamais parlé, mais le Luger ça a tenu à cœur, parce que le Luger c'était vraiment un truc qui plaisait.
Quels étaient ses goûts musicaux? Parce que là on entend un petit peu des réminiscences, un petit peu de cabaret, un peu des choses un petit peu qui sont un peu...
Bien entendu cabaret allemand, tout ce qui était allemand, Kurtwell et toute la clique, et après il était assez crotte, rock, donc ouais. Cannes, et surtout Amondoul 2. Amondoul 2, c'était le summum. Mais après.
Il n'y avait pas de touche Procolarum avec l'orgue, tout ça, des trucs comme ça.
C'était Amondoul 2.
Et alors, qu'est-ce qu'il a aimé dans vos musiques
Je pense aussi, c'était un grand fan du Gun Club.
Ah ouais, d'accord, le regard.
Pour avoir aussi, il pouvait te raconter une histoire. Ben voilà, tu étais avec lui, il pouvait te raconter une histoire. Il avait rencontré Jeffrey Lee Pierce à Paris, à l'époque où ils venaient à Paris, autour d'un flipper. Ouais. Et c'est un grand fan du Gun Club, donc je pense que ce qu'il a tiré aussi, tout ce qui est garage, Gun Club, punk, bizarre, tout ce qui a une ambiance, lui plaisait.
Tout ce qui était mauvais genre.
Tout ce qui était. Tout ce qui avait, une ambiance.
Thierry, Vince, comment vous s'est fait la rencontre? Alors tu m'as dit que les Vietnam Veterans, tu l'avais connu, mais comment ça s'est fait physiquement? Comment vous êtes arrivé à vous retrouver, à monter avec votre camionnette en Bourgogne pour
enregistrer? Ça vient en fait de notre premier producteur, Henri Gobi, qui lui aussi est décédé, parce qu'il faut savoir quand même que les Needs.
Ouais.
On raconte toujours des histoires de rock'n'roll où les musiciens meurent, ils se fauchent, ruinés et tout, et les producteurs s'enrichissent. Nous, on a quand même réussi l'exploit, et ça va plutôt bien pour nous d'ailleurs, d'enterrer deux producteurs qui sont les deux morts, absolument ruinés et fauchés. Donc c'est quand même un exploit qui mérite d'être souligné. S'il y a des amateurs pour être notre troisième producteur, ils peuvent se présenter. Donc comment se fait la rencontre? Donc Henri Gobi, notre premier producteur, était un fan mais absolu des Vietnam Vétérans. Il trouvait que c'était le plus grand groupe du monde. Donc quand il apprend, pareil comme Thierry, que en fait c'est pas un mec de Los Angeles mais un mec de Bourgogne, et qu'il monte un studio et qu'il était censé nous produire, il dit bon, on va enregistrer là-bas, donc on va aller le rencontrer. Et donc on est parti c'était au mois de juillet, donc les premières éditions de Chalon dans la rue et tout, et on s'est rencontrés, on a discuté, et effectivement moi je pensais rencontrer quelqu'un qui était un fan de garage, puisqu'ils étaient quand même les vétérans sur Music Maniac, sur lesquels il y avait des Fustones, et en fait non quoi, c'était un vrai musicien, contrairement à nous, surtout à moi d'ailleurs, et ça heureusement, parce que sur son côté producteur il avait ça très très à cheval sur la technique, la précision quoi, c'est-à-dire que même si tu fais du garage tu le joues en place, sinon tu dégages du studio, donc ça m'a valu quelques moments un peu pénibles,
douloureux.
Mais il aimait la technique. Donc effectivement, Amon Doul, tout ce qui était chiadé, qui était bien produit, qui était bien fait et tout. Et comme disait Michel aussi, mais quand même, il aimait les trucs un peu, si c'était que bien produit, il s'en foutait. Et les trucs déjantés. Il fallait qu'il y ait un truc toujours un peu malsain. Effectivement, dans le garage, soit par les paroles, soit par le son, soit par la guitare, il y a un côté malsain qui est
la fuzz,
c'est l'essence même de cette musique-là. Ah, quoi. C'est un truc qui doit déranger celui qui n'est pas habitué ou qui n'a pas les oreilles faites pour ça. Tu vois, tu es content d'un garage quand tu fais écouter à des gens qui n'ont rien à voir avec ça, ils te disent putain, mais c'est inécoutable. Tu te dis bon, voilà.
Ah, j'ai gagné quelque chose.
J'ai gagné quelque chose. Donc maintenant, je vais faire écouter aux gens qui comprennent quelque chose. Voilà comment ça s'est fait. Ouais. Donc c'était parce que il y avait un fan absolu des Vietnam vétérans, qui nous a amené là-bas. Et après, quand tu connais le personnage, soit, et on l'a tous dit, tu ne reviens jamais parce que tu ne peux pas, soit tu reviens toujours.
Voilà, comme c'est le cas de toi, Michel. Alors, Michel, la rencontre s'est faite toi aussi par l'intermédiaire de quelqu'un
ou... Moi, bizarrement, ça s'est fait un concert. Alors d'abord, la première rencontre, c'était à Salon. Il y avait Basile, le bassiste des Cowboys, et Henri, le batteur à l'époque des Cowboys, qui le connaissaient bien, qui m'ont dit, tu vas voir, il est super. Donc ils m'ont présenté à Lucas, et Lucas il m'a ignoré complètement. Donc c'était super. Donc, je me suis dit, qui c'est ce mec? Bon, après, il était sur son histoire. Il y avait Dionysos, justement, qui jouait ce soir-là. Et après, j'ai rencontré quelques mois après, et là, en fait, la rencontre, elle a été beaucoup plus simple, puisque de toute façon, Lucas, il aimait les gens qui faisaient quelque chose, il aimait les gens par la musique, il aimait, donc voilà, ça s'était fait, là, ça a été beaucoup plus simple, mais voilà, j'ai rencontré comme ça, en allant faire une démo qui est devenue un album. Le premier album des Cowboys.
Voilà, donc l'histoire est partie.
Et à partir de là, on s'est très attaché et on est retourné pour eux. Pour cet album, ouais.
Pour cet album, ouais. Voilà, une grosse fidélité, une grosse histoire de fidélité.
Et c'est vrai que le batteur, voilà, il faut dire le batteur était un transfuge des Needs qui s'était mis au repos à l'époque.
D'ailleurs, on toujours le prix du transfert. Qui n'a pas été réglé.
Allez. C'est vrai que vous devez une blinde. Le gros album du mois.
pour rendre hommage à Lucas, on a fait que des sélections jusqu'à la fin de l'émission sur Lucas. Alors là, le deuxième groupe, Tango Luger.
Hein, c'est Tango Luger.
Avec Scorpion 47 tours. Avec donc Scorpion. Là, on va dire 47 tours. Et puis on va enchaîner directement avec aussi. Alors là, c'est Lucas et.
Et Univibe. Alors Univibe, Turley Pring, c'est un chanteur. Alors j'arrive pas à me rappeler de quel groupe, mais d'un groupe punk parisien des années 80. Et ils avaient fait le deuxième morceau. C'est un morceau électro de Lucas, mais qui est fait sans ajout numérique.
D'accord.
C'est tout des synthés analogiques et tout. Et en fait, ce morceau, c'était... Moi, j'ai demandé toujours avec les Cowboys, la condition avec de Lucas à partir du deuxième album, c'était que pour les Cowboys, ils fassent des chansons. Donc, ils devaient toujours faire une ou deux chansons pour que j'ai enregistré là-bas quand même, je poussais. Et là, j'avais demandé une chanson à la James Bond. Donc, c'était devenu ce Spy Murder from School Valley. Voilà. Et ça, c'était la démo qui m'avait fait écouter, qui est sortie sur un album après, parce que je me suis dit, putain, mais la démo, elle est très bien, elle n'a rien à voir avec celle des Cowboys, vas-y, mais là aussi. Et donc, il avait fait sur un album, voilà. Donc,
Bon, on écoute ces deux morceaux, hein, Tango Luger et Lucas et Univibe. C'est voilà. Parti.
Effaré devant la ville blanche. blanche, alors que tu étais sûr de ton sommeil. Sur la poussière de sable piquer les cieux. La silhouette sombre sur les photos en arrière-plan. C'était bien lui, on le retrouve partout. Quand je vais dormir, je vais donc cet instant. Trop tard, l'image se brouille, comment savoir. Je connais ce type que je dois tuer. Il roule vite, mais je me sens plus fort que lui. Ce visage des photos d'eau, c'est impossible. Tombre du corbeau se battait sur l'autojaune. Scorpion, fais attention, ils sont sur toi. Scorpion, fais attention, ils sont sur toi. Scorpion, fais attention, ils sont sur toi. Scorpion, fais attention, ils sont sur toi.
Yeah.
un univers cinématographique mais assez déjanté, hein, voilà, avec Lucas et Univibe.
Donc qui jouait dans le groupe, voilà, on a trouvé Philippe du groupe Panorama.
Du groupe Panorama.
Pour la filmographie, alors Lucas, c'était un type qui tous les samedis ou tous les vendredis regardait Zorro. Je veux dire, et alors quand c'est surtout la dernière version couleur, si tu veux, c'est à un moment donné tout s'arrêter pour regarder Zorro.
D'accord.
Voilà. Ouais, donc si tu veux Zorro, et puis alors il regardait ça, mais c'est un truc d'enfant. Tu puis il se refaisait Bernardo. Et avec une espèce de gestuelle, il était fan de Zorro.
Ouais. Il faut imaginer Lucas quand même, pour le décrire vite fait, c'était quand même c'était un Bourguignon qui était entre Depardieu et Giroud. je veux dire, physiquement, il pouvait être il était entre les deux avec des cheveux longs et un chapeau. Voilà, donc c'est quand même un personnage comme ça. Donc, c'est vrai qu'il regardait Zorro en faisant des gras.
Je crois que c'est le mec, enfin, moi, dans ma vie maintenant, tu vois, ça commence à faire. Je crois que c'est la personne la plus drôle, quoi, et la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée.
Percutant.
Drôle, fine, quoi, intelligente et très très cultivée. C'est-à-dire qu'il pouvait, tu vois, te sortir des insanités, mais l'insanité, c'était jamais gratuit, quoi. Tout avait un sens et un sens profond, quoi. Et quand il sortait une connerie brute, tu vois, juste pour... C'était un grand éclat de rire. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Tu vois, sa mort, c'est maintenant, on est vieux, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a, grâce à lui, on a pu, avec les multiples albums qu'on a enregistrés chez lui, les multiples allers-retours qu'on a fait en Bourgogne, ça nous a maintenu une espèce d'adolescence, une espèce de connerie. Et là, il est mort, et maintenant, on est vieux. Quoi.
Ouais, c'est ce mystère, quand même, de cette longévité, comme ça, de cette fidélité, parce que c'est vrai que j'ai discuté avec des personnes que tu connais, etc. Ben, toujours, Michel, il va toujours enregistrer là-bas, quoi. Oui. Oui, voilà, pourquoi il ne va pas changer un petit peu de son, d'ambiance, d'atmosphère, etc. Et c'est toujours. Alors, effectivement, il y a aussi un côté. Attends, je finis aussi. Oui. Peut-être parce que tu parlais tout à l'heure de synthé analogique, etc. Il y avait aussi le grain, l'enregistrement, parce que c'est quand même. Tout est à l'ancienne, quoi.
Voilà, alors déjà, c'est que. Passer que Lucas, c'est devenu. Quand on était très amis avec lui, ça devenait carrément pratiquement un membre de la famille. Il connaissait tout, on présentait tout, il connaissait nos femmes, il connaissait les enfants, on connaissait ses enfants, on connaissait sa femme. Mais en plus, après le personnage musical, le studio était analogique avec des bandes, des choses qu'on comprenait, des choses qui allaient bien avec notre musique. Il n'y avait pas de matériel numérique dedans, c'était interdit. D'ailleurs, ils prenaient les ordinateurs à coups de hache.
Non, mais vraiment,
c'est pas pour rigoler. L'ordinateur n'entrait pas. Et tout était en bande. Il avait ses marqueurs pour faire les traces sur les bandes qu'il faisait revenir à la main en arrière pour effacer. Et il effaçait tout. Ça prenait des plombes, mais.
Et le coton-tige.
Voilà, le coton-tige pour nettoyer les têtes. Et les coups de pied pour faire marcher les DBX.
Ah ouais, d'accord.
Voilà, donc. Il nettoyait tout, ça prenait des plombes, mais le résultat, c'est qu'à chaque fois qu'on écoutait un album de son groupe, d'abord sur la 1 pouce, c'était impressionnant, puis après sur le mix, la quart de pouce, la caille là, qu'il avait en face, là, ben, c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait un son qui était incroyable, qu'on ne retrouvait jamais après, soit sur les CD, soit sur les vinyles, hélas. Mais c'est vrai qu'il y avait un son, et que c'était le studio.
Bien sûr. Dans son studio, il y avait juste derrière, enfin, il y avait cette petite pièce qui devait faire 3 mètres carrés, et il n'y avait que des claviers. C'est-à-dire que tu avais un espace à peu près de 18 cm pour te faufiler entre des Moog, si tu veux, légendaires.
Ben, c'était
des Fender Rhodes et des Fender Rhodes. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais écoute, il faut impérativement qu'on mette le Moog. Alors il me dit, ouais, tu vas jouer. Et il y a un morceau, tu vois, qu'importe, où j'appuie, je mets mon doigt dessus, ça fait glou, 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 glou. Alors évidemment, j'ai joué sur le Moog, et il me dit, bon, regarde, très, très content. Et j'ai joué du Moog, tu vois. Voilà, dans ma vie, je pourrais crever, il y a un petit instant, j'ai joué du Moog. Grâce au Kaiser, quoi.
Donc, un musée du clavier, quoi.
Non, mais c'est pas un musée, c'est un musée vivant. C'est pas un musée, tu te servais.
Et comment il faisait pour financer tout ça?
Bah avec notre argent.
Bah avec l'argent qui du studio qui arrivait. Après, il faut savoir que bon, bah, il a acheté tout ce matériel à l'époque. La Mon B3, il était à Richard Anthony. Et il m'avait raconté la. Bon, c'est trop long, mais voilà, Richard Anthony. Après, il avait des trucs qu'on trouve en vie de grenier à 20 euros, 30 euros, qui maintenant coûtent des centaines d'euros. Il avait un Fender Rhodes, tout ça, voilà, c'était toute une, c'était toute une accumulation d'une vie aussi. Il a commencé dans les années 70, et là on parle de milieu 90 à maintenant.
Ouais, voilà, il avait des cabines Leslie, il avait deux cabines Leslie, voilà, tu vois, des trucs qui, tu vois. Ce qui est important, enfin, je dis un truc, c'est quand même, si tu parles de comment il se finançait, il détestait, mais viscéralement, ce qu'il appelait le rock municipal, et même si son studio était, parce qu'au début il était artisan, mais bon, il a vite coulé parce qu'il ne s'en sortait pas pour des raisons. Voilà. Mais donc il a remonté ça en association. Il n'a jamais eu la moindre subvention, mais il n'en a jamais demandé. Il n'a jamais voulu. C'était un vrai marginal. Ce qu'il faut voir, c'est que c'était un gars qui n'a jamais travaillé comme salarié de sa vie. Il a été artisan 2 ans, ça a coulé. Son association, il n'a jamais. Donc un gars qui n'avait pas le RSA ni rien. Il ne voulait rien de la société. Et ça, quand même, dans l'ambiance actuelle, c'est un peu important. Si moi, je ne demande rien à l'État, rien aux organismes. Il n'était pas affilié à la Sécu. À la fin, quand il a été malade par la Sécu de sa femme et tout, mais rien. Il ne voulait rien entendre de tout cela. Donc c'était pas le faux marginal qui veut bien le RSA, les allocs, mais pas le, tu vois le truc avec le parti. Rien, il n'a jamais craché. Et dès qu'il y avait un concert qui était organisé, parce que là où il habitait, dans les mairies, les machins venaient le voir, il disait non, je ne travaille pas avec vous, je ne veux pas vous voir. Quoi. Je veux pas vous voir.
Une indépendance totale.
Total.
Total. Alors, écoutez, messieurs, on n'a pas trop le temps, hein, parce qu'on pourrait passer encore une heure. On va essayer de mettre un peu du son, Michel. Oui. Hein, soit on fait un choix. Soit on sorte des morceaux, soit on suit notre liste. Hein, alors le prochain c'était un morceau extrait de Violetta.
Voilà, de Violetta qui est le dernier double CD, double album qu'il a sorti. Donc ça s'appelle When a Bad Boy Try to Fly.
Hein? Ah bah écoute,
quand un mauvais garçon essaye de voler, je pense que ça parle un peu de lui aussi. Ouais. Et un peu de tous les gens qui ont un peu traîné dans son studio, parce qu'il aimait bien toute cette ambiance de bandits, il avait toujours des histoires avec des gitans, et je suppose que quand nous on passait, soit les Nice ou les Cowboys, il avait des histoires avec les Marseillais racontées à ses amis de Bourgogne, que je pense qu'il gardait quand même ce truc, qu'on était quand même des garçons violents, qui se laissaient pas faire et qui étaient pratiquement tous armés. Voilà, ça peut être très... je pense que c'est ça la chanson, voilà.
Allez, on écoute ça, allez, ouais. When a bad boy try to fly de Lucas Trouble.
Faut que tu prennes le gros anglais.
Oh,
Yes, Lucas Trouble, donc dans l'oreille cassée, émission spéciale donc au Kaiser, Lucas Trouble, avec donc un morceau extrait de son dernier album, Violetta, hein, When a Bye Boy Tried to Fly.
Oh, ça fait du bien.
Il a répété 4 fois avant de prendre l'antenne.
Alors, tu disais tout à l'heure, pour finir un petit peu cette émission, parce qu'on aurait dû faire une avec vous, messieurs, c'est excellent, parce qu'on pourrait faire des heures là-dessus, et sans s'ennuyer.
Ouais, mais bon, c'est parce que c'est Lucas, parce que sur chez Dodo, tu pourrais faire 2-5 minutes.
Oui, ça c'est clair, ça, Michel. Jamais eu de succès, à part un peu les Cowboys, les pages de Rock'n'Folk, il n'y a pas eu d'album, de single qui a eu succès commercial.
Ah, le premier de Jesus, c'est
un peu longévité.
Oui, le premier de Jesus.
Car lui, il a été quand même, il a été interviewé par Manœuvre, qui est venu chez lui, etc.
Il a fait mes disques à moi.
Tu vois,
non, mais mes disques à moi, quand même, moi je rêve qu'un jour, en fait,
tu vois, c'est disques à moi, c'est pas rien. Quoi. Ouais. Enfin, à un moment donné, il a quand même une reconnaissance parce qu'il a traîné à une époque, au milieu des années 80, il était avec les poudreux parisiens, donc si tu veux, il a quand même.
Il a connu des mecs,
il aurait pu avoir un destin différent, mais je pense qu'il s'en battait.
Vraiment, ça faisait plaisir. Moi, il m'avait appelé quand Manœuvre était passé.
Photographié chez lui, quoi, tu vois, t'imagines, avec ses
rigos. Il recevait du monde, il a eu
Brian Bando. Ouais, le guitariste
il était prof de Def Tray de Gunna, des Sham 69 et de Lords of New Church.
Voilà. Okay. Non, bon. Mais quand tu parles de lui à Rudy Protruzzi, on a joué, grâce à toi, on a joué il y a 7 ans avec Rudy Protruzzi. Tu parles de Lucas Trouble à Rudy Protruzzi, mais tu vois, il s'en souvient.
Écoutez, messieurs, le temps nous rattrape. Merci à tous d'être venus passer pour cet hommage à Lucas Trouble. Il fallait le faire. Ça fait un an et un mois, puisque c'est lui qui est mort le 1er avril. Allez, on l'écoute.
Alors, le dernier morceau, Horst.
Worst, hein.
Alors c'est Horst Tapper quand même, et vous allez découvrir ce que c'est, parce que Lucas était un comique jusqu'au bout, donc il est mort un 1er avril, il faut le savoir.
Oui,
son côté et donc vous allez comprendre pourquoi il est mort un 1er avril, parce que quand on fait une chanson comme celle qui va suivre, ben, on peut mourir un 1er avril.
Allez, c'est parti, merci monsieur.
Son
côté espiègle.
Like a frozen body in the night. I wanna be your guide.